de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Nous sommes à la 78e édition du Festival de Cannes. Nous sommes eh bien, sur la croisette, pas très loin du Palais des Festivals, où vient de monter l'équipe du film de Jafar Pahani, Un simple accident, qui est en compétition à Cannes. Nous, on a attendu que la pluie se calme un peu, Sophia.
Et oui, Vincent, on a de la chance d'avoir retrouvé quelques rayons de soleil pour finir la journée après un gros orage.
Oui, et on est un peu après donc la moitié du Festival de Cannes. On est arrivé après le début, mais on a quand même pu voir un certain nombre de films. Et ce sont ces films dont on va un peu parler. Puis on aura aussi l'occasion d'écouter non seulement un acteur qu'on a pu rencontrer, c'est celui du film Nouvelle Vague. Alors c'est pas l'acteur principal du tout, mais c'est quand même intéressant d'avoir ses impressions. Et puis l'impression aussi d'une réalisatrice québécoise, Anne Aymon, qui a présenté son film cette fois-ci à la Quinzaine des cinéastes. Voilà, c'était bon. Je lui ai posé des questions sur son film, mais son film ne sort pas tout de suite, donc j'ai préféré lui laisser parler de son impression sur ce Festival de Cannes.
This is Cinérama.
Le Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
Donc, dernière ligne droite du Festival de Cannes, la 78e édition. C'est plutôt une belle édition. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophia.
Oui, effectivement, j'ai été assez agréablement surprise par tout ce que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'à présent. Vraiment, parfois des claques même, de sacrées claques cinématographiques. Bon, et puis quelques légères déceptions du côté du cinéma français et des productions Netflix. Voilà, je le dis vite fait en passant.
On commence bien peut-être par parler d'un film français, mais qui est pourtant celui d'un réalisateur américain, celui de Richard Linklater. C'est Nouvelle Vague. Richard Linklater a choisi de raconter la fabrique d'un film fondateur pour le mouvement de la Nouvelle Vague, à bout de souffle. Une totale réussite et un long métrage qui a vraiment enchanté la critique, largement applaudi dans la séance où il y avait plutôt des journalistes. Et puis, c'est peut-être aussi parce que le film est avant tout un film de cinéphile, évidemment. Il met en avant Jean-Luc Godard, qui voit que ses potes des cahiers du cinéma, que sont Truffaut et Chabrol, ont déjà fait leur film, mais lui n'a encore rien fait. Et c'est à ce moment-là qu'il va tourner à bout de souffle avec un Jean-Paul Benondo qui n'est pas connu à l'époque, et puis Jane Seabert qui s'installe à Paris après avoir joué avec Preminger. Alors ce que montre Nouvelle Vague de Linklater, c'est comment Jean-Luc Godard est encouragé à tourner son film, comment il va convaincre un producteur de le faire et comment il va imposer sa manière de faire et réfléchir finalement à qu'est-ce qu'un film, comment je peux faire ce film. Avec les acteurs, la production, les techniciens. Alors il n'y a pas de texte pour les comédiens par exemple, ceux-ci sont connus le jour même du tournage. Parfois, une journée de tournage s'arrête avec une prise seulement, car Godard ne se sent pas de poursuivre le tournage. Voilà, donc ça s'arrête, ce qui n'est pas évidemment dans l'usage des tournages, même dans les années 60. Et parmi les socles de la filmographie godardienne, il y a Raoul Coutard, le chef opérateur, ayant appris son métier à l'armée. Il est l'homme idéal pour tenir la caméra légère, choisi pour le tournage. Un tournage d'ailleurs qui est réalisé sans prise de son. Tout sera fait en post-synchronisation. Nous avons rencontré celui qui incarne Raoul Coutard à l'écran. Il s'agit de Mathieu Pinchina, plutôt un comédien de scène et plutôt idéal pour le rôle. Il nous raconte sa projection cannoise.
Dans le Grand Théâtre Lumière, il y a un truc qui était complètement fou, encore une fois. Je crois que c'est le mot que je vais le plus répéter. C'est qu'à la fin, il y avait Tarantino qui était juste devant nous et Lelouch qui était à côté de lui. Et Tarantino a fini en larmes. Alors qu'il l'avait déjà vu une première fois, c'était la deuxième fois qu'il le voyait. Et en fait, pareil, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, c'est vraiment, t'es là, tu vois Tarantino à 1m50 en train de pleurer, de dire bravo. Tu dis, ok, D'accord.
Et j'ai demandé à Mathieu Pinchina comment il avait nourri son rôle.
Il y a quand même pas mal de documentation, parce que Raoul Coutard est quand même une figure assez importante. Dans ce qui m'a vraiment marqué, il y a son autobiographie qui était vraiment intéressante. J'ai lu toute la partie jusqu'à la fin d'À bout de souffle. Comme le film raconte l'histoire d'À bout de souffle, j'ai lu toute la partie jusque-là et j'ai pas lu la suite tout de suite parce que je voulais pas trop me documenter sur ce qu'il avait fait après. Le plus compliqué, c'est que Raoul Coutard sur À bout de souffle n'est pas très documenté. Il est très documenté sur tout ce qu'il a fait après et du coup à rebours sur... Donc c'est lui, un peu plus âgé, qui raconte... Donc je sais qu'il y a un pas de côté sur ce qu'il raconte et que voilà. Au début, ils sont très distants, très méfiants l'un avec l'autre. Ils se moquent un peu dans une des premières scènes de tournage. On est au café et Godard se barre et il y a je sais pas qui le vanne un peu et moi je me marre. Ça je m'en souviens parce que Richard m'a questionné dessus. Parce que Richard ne dirige pas vraiment les acteurs de manière très directive, il pose des questions. Et en fait il est là, il te dit est-ce que tu crois qu'il rigole à ce moment-là ? Et c'est pas une fausse question dont il attend une réponse qu'il a déjà, c'est une vraie question. Et je fais un petit détour sur la direction d'acteur, mais je trouve ça intéressant en fait, ça m'a vachement fasciné et questionné moi sur mon travail aussi après. Et je lui ai dit bah ouais je pense qu'il rigole parce que ça, il m'a dit ok. Et la prise d'après j'ai rigolé, il a dit bah très bien.
C'était donc Mathieu Pinchina qui interprète Raoul Coutard dans le film Nouvelle Vague de Richard Linklater en compétition au Festival de Cannes. C'est une immersion dans le tournage d'À bout de souffle, tourné en 4 tiers, en noir et blanc, qui assume une légèreté en même temps une précision et qui livre tout un tas de phrases sur la fabrication du cinéma. Il y a plein de choses à emporter une fois que le générique arrive. Et ce sera seulement le 8 octobre au cinéma et nous verrons bien s'il obtient un petit prix, sans doute pas la palme, mais peut-être un petit prix. Et toi Sophia, quel film tu veux mettre en avant ?
Eh bien écoute, pour rester dans le cinéma français, moi j'ai pu voir La Petite Dernière d'Afzia Herzi, qui n'en est pas à sa première réalisation, hein, après Tu mérites un amour et Bonne mère en 2022 notamment, mais c'est un premier rôle pour Nadia Meliti qui incarne Fatima, donc 17 ans. C'est la petite dernière d'une fratrie, hein, une sororité où elle est la dernière fille, dans une famille qui vit en banlieue, une famille joyeuse, aimante, d'origine algérienne. Elle est bonne élève, elle passe son bac, hein, et puis intègre la fac en philo à Paris et elle se découvre en fait en parallèle. Sa vie de jeune femme débute, elle s'émancipe de sa famille, des traditions et elle se questionne sur comment concilier sa foi avec ses désirs naissants et plus largement son identité. C'est vraiment un super premier rôle pour l'actrice principale Nadia Meliti, hein, qui mériterait peut-être un petit quelque chose pour cette interprétation, qui est aussi entre force, dureté et sensibilité à fleur de peau, dans ce film qui traite d'amour lesbienne, de découverte de la sexualité, hein, de l'homosexualité en l'occurrence, d'isolement aussi, hein, puisqu'elle est un peu dans le placard, cette jeune femme. On a une très belle scène avec sa mère justement à table où il lui est impossible de dire en fait qui elle est, et la scène est particulièrement touchante et marquante, hein, même si sa maman a le mérite de lui offrir des maillots de foot pour son anniv plutôt que des bijoux. Voilà, donc c'est un film qui a le mérite d'être bien mené, qui est sensible, pas outrancièrement cliché, hein, dans la manière d'opposer justement la religion et l'identité queer, hormis un petit discours d'un imam un peu attendu, mais sans doute peut-être reflet d'une réalité qu'on ne connaît pas.
Ce film de Afzia Herzi est en compétition, tout comme le film de Jafar Pahani. L'équipe vient de monter il y a quelques minutes les marches du festival. Nous sommes pas très loin. Nous sommes donc à Cannes et nous allons continuer à développer quelques films que nous avons vus, hein, pour donner un peu notre sentiment sur cette compétition. Je vais poursuivre avec encore un film français, mais cette fois-ci réalisé par un réalisateur français. C'est Dossier 137 de Dominique Moll. Alors, est-ce qu'on doit le répéter que Léa Drucker est une grande actrice, hein, même dans le rôle de fonction qu'elle prend en tant qu'enquêtrice de l'IGPN dans le film Dossier 137 de Dominique Moll. Elle parvient à rester toujours présente, vivante et à nourrir son personnage. Il s'agit vraiment d'un film remarquable. Il est tiré d'une affaire réelle qui concerne un jeune homme qui reçoit un tir de LBD lors d'une manifestation de Gilets jaunes. Alors d'un côté, il y a la famille qui veut comprendre pourquoi ce garçon a été blessé par des policiers et qui voudrait bien qu'on punisse les coupables. De l'autre, des policiers soupçonnés qui n'assument rien. Mais évidemment, ces policiers, il faudra comme n'importe quel délinquant les traquer, confondre leurs mensonges ou leurs pertes de mémoire. Et oui, vous savez, quand les gens sont interrogés, ils ne retrouvent pas forcément tous leurs souvenirs. Et au milieu, il y a une femme policière, mais aussi mère, qui cherche la vérité. C'est donc Léa Drucker.
Nous enquêtons sur les circonstances qui ont mené à la blessure de Guillaume Girard samedi dernier. Sa mère nous a dit que vous étiez avec lui au moment des faits. Est-ce exact ?
Ouais.
Nous souhaitons vous entendre en qualité de témoin.
Je sais même pas comment il va, j'ai aucune nouvelle.
Son pronostic vital n'est plus engagé, mais les médecins ne le jugent pas en état d'être auditionné.
Pas en état, ça veut dire quoi? Il va avoir des séquelles?
Je ne sais pas.
Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait.
Mais tu baisses d'un ton, là. Et tu parles correctement, s'il te plaît.
Et vous les avez retrouvés? Les flics, là, qui ont fait ça, vous les avez retrouvés?
Monsieur Cordier, c'est nous qui posons les questions.
Parce que vous allez me croire. Au tribunal, ils m'ont même pas écouté. Ça a duré 5 minutes, montre en main, tout ce qui comptait, c'était une fiche d'interpellation rédigée par les flics qui disait que je leur avais tapé dessus. C'est complètement faux.
Ce film est bien mieux qu'un documentaire, hein, c'est vraiment ce que j'ai pensé en le voyant, c'est sa force. Il donne l'avantage d'éclaircir les limites de la mission de la police des polices, donc qui enquête sur les ripoux comme les irrégularités des forces de l'ordre. Il éclaire aussi eh bien, sur les pressions politiques sur les affaires concernant les policiers. Et puis, sans mettre tous les policiers dans un même panier, permet d'en apprendre davantage sur leurs tâches. Pendant les manifs des Gilets jaunes, le pouvoir envoyait des policiers pour, paraît-il, sauver la République. Hein, c'était des consignes vraiment officielles parce qu'elle était en danger, cette République. Cependant, certains de ses fonctionnaires se comportaient sans respecter les règles et la mettaient donc en danger. Le film ne prend pas parti, mais bien évidemment, les policiers violents n'ont pas le beau rôle. Dossier 137 est méticuleux. Il montre le travail fastidieux d'enquête, le sale rôle des policiers de l'IGPN hein, qui enquêtent sur leurs collègues et qu'on reproche d'être confortablement installés dans leur siège. Et dans une scène quasi finale, entre l'enquêtrice et sa chef, soucieuse d'éteindre la mauvaise image des policiers, eh bien, Léa Drucker a l'occasion de livrer un discours, mais vraiment très clair, sur les intentions du film, qui fait l'objet d'un plan séquence vraiment remarquable. Dossier 137, vraiment mériterait une large audience car il mêle fiction, effort de pédagogie et puis éclairage sur des faits de société parce que les tirs de LBD et toutes les victimes de ces manifestations, on les a eues aux infos. Donc ce dossier 137 remportera-t-il un prix? Peut-être. Nous le verrons à la fin du festival. Alors, un nouveau film pour toi, Sophia.
Et oui, et la transition est toute trouvée puisque tu parles de police et également du mouvement des Gilets jaunes qui s'inscrit plutôt dans notre histoire ultra contemporaine. Donc, tu me déploies donc le tapis rouge pour introduire le film, le dernier film d'Ari Aster que j'ai pu voir ici à Cannes, Eddington, qui était très attendu. C'est un western qui s'inscrit complètement dans les années 2000, donc sur fond de Covid. Le réalisateur a notamment écrit, il a participé à l'écriture du scénario et il l'a écrit pendant le confinement et ça se ressent vraiment. On est dans la petite ville d'Eddington, dans le Nouveau-Mexique, où le maire incarné par Pedro Pascal et le shérif, qui n'est autre que Joaquin Phoenix, s'oppose dans une confrontation mais qui va très vite sombrer dans l'absurde et enflammer toute la communauté locale. Le tout est dopé aux réseaux sociaux, aux fake news, aux théories complotistes, au mouvement Black Lives Matter. Vraiment, toutes les thématiques phares de l'année 2020 sont combinées dans cette fresque western moderne. Porter son masque ou ne pas le porter, telle est la question, et c'est ce qui est à l'origine de bien des conflits. Il y a de nombreux sous-textes dans le film, et les névroses dues à ce contexte très particulier évoluent en une véritable psychose généralisée qui est aussi vraiment alimentée par les manifestations Black Lives Matter et qui vont mettre en péril les plans du shérif qui espère être élu maire de la petite ville, une petite ville dans laquelle un super data center risque d'être construit alors que la ville connaît une sécheresse historique. Bon, alors c'est étonnant de référence à un épisode ultra contemporain de notre histoire qui a vraiment marqué notre génération, notre rapport au monde et aux autres. On pourrait un petit peu reprocher l'ambition d'Ari Aster qui a voulu caler énormément de thématiques dans ce film. En même temps, on connaît le réalisateur et on sait que c'est un petit jeu auquel il se prête régulièrement. Et c'est pas pour nous décevoir. On voit notamment des étudiants blancs qui récupèrent un message anti-raciste, anti-colonial et qui se mettent à culpabiliser des personnes noires de ne pas manifester avec elles. Enfin, tout cela est presque un peu étouffe chrétien au final, mais on a vraiment une expérience cinématographique très dense, et très riche. Et puis il y a notamment un petit sous-texte parallèle que j'ai retrouvé dans un autre film dont je vous parlerai après, qui ne faisait lui pas partie de la compétition officielle. Mais voilà, on a des gourous qui se nourrissent de la souffrance de personnes victimes d'inceste, par exemple, pour les prendre sous leurs bras. Enfin bon, il y a tout un tas de thématiques développées qui sont très intéressantes, et c'est un grand western contemporain.
Alors, ce film de Ari Aster sortira en juillet.
Oui, c'est d'ailleurs assez surprenant qu'il sorte si tôt, et aussi pendant la période d'été où il n'y a pas énormément de spectateurs qui se rendent dans les salles. C'est peut-être parce qu'il est peut-être un petit peu trop violent finalement, oui. et que voilà, au moins on épargne le plus grand nombre.
En même temps, c'est un réalisateur qui reste assez confidentiel. Hein, c'est le réalisateur de Boys Afraid, de
Midsommar, du fameux Midsommar. Oui.
Donc, c'était un film effectivement à nouveau en compétition. Nous sommes toujours tout près des marches du Festival de Cannes, où une équipe de films, celle du film de Jafar Pahani, est montée il y a quelques minutes. Nous allons développer les films que nous avons vus lors de cette 78e édition. Et il y a un film qui était attendu quand même, c'est Alpha de Julia Ducournau. La presse a tiré à gros boulet hein, sur Alpha, le dernier long métrage donc de la Palme d'Or avec Titane quand même. Hein, donc voilà, donc c'est forcément pour ça qu'elle est attendue. Et j'ai lu dans Télérama, fini Cronenberg, on dirait parfois du Luc Besson revu par Gilles Lelouch.
Aïe.
Très dur. Et encore, voilà, bon, j'ai même pas cité Libération parce que c'était pire en ouvrant Libération. Donc Alpha qui n'a rien d'un film facile, il faut bien l'avouer, même s'il emprunte des facilités. C'est comme ça que je le résumerai. Alpha, c'est une jeune fille de 13 ans qui, pendant une fête, se fait faire un tatouage. Et quand elle revient chez elle, sa mère est horrifiée. Cette aiguille a-t-elle touché quelqu'un d'autre ? Sa mère est docteur dans un service qui soigne un virus qui pourrait être le Covid, mais qui est plutôt... Eh bien, une comparaison avec le sida. Hein. Une très belle trouvaille, d'ailleurs, visuelle du film. Les malades se transforment en marbre et expirent de la poussière. Ça, c'est vraiment très, très bien fait. Et dans le même temps où Alpha va subir des tests, la jeune élève va être ostracisée dans son collège comme une pestiférée. Alors, il faut dire qu'elle répand son sang quand elle se baigne. Enfin, voilà, il y a des scènes comme ça qui donnent l'occasion à Julia Ducournau de montrer le gore. Hein, parce
quand
que
même,
elle est connue pour ça. Voilà. Il sert ici le gore à un récit qui va se recentrer sur trois personnages. Il n'y a pas seulement Alpha, mais aussi sa mère, donc. Et puis son frère, un toxicomane endurci qui n'a que la peau sur les os, joué à la perfection par Tahar Rahim. La mère d'Alpha lui fiche entre les pattes, elle l'héberge et le place dans sa chambre, ce qui n'est pas au goût de la jeune fille. Hein. Mais sa mère lui répond que c'est la famille et d'ailleurs fait donc la bise à tonton toxico. Tiens, bon, une scène assez éprouvante. Ducournau dépeint la famille comme monstruosité, hein, c'est un peu ça qui est derrière, dépendance et en même temps, eh bien, elle explore le corps souffrant. Le plus gros problème du film, alors, est peut-être qu'il tourne en rond en enchâssant les récits et les époques. Parce que c'est un peu ça le principe de ce film, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait pas dans quelle époque on est, hein. On sait qu'on nous parle d'une maladie qui pourrait être le sida, mais bon, on ne peut pas se repérer ni avec les voitures, ni avec les meubles, ni, enfin voilà, on n'a pas de repère. Et puis, en même temps, on ne connaît pas vraiment la temporalité, parce que parfois on va dans le passé. Alpha, elle peut avoir 6 ans comme 13 ans, et ainsi de suite. Voilà. Mais une des réussites est sa forme assumée, me semble-t-il, et son point de vue sur les années sida, une époque où la peur de l'autre était bien présente. Ce que je reconnais à Julia Ducournau, c'est le fait de ne pas être tiède, tout simplement. Voilà. De rester dans cette espèce de filiation filmique et de d'oser des images. Donc, je pense qu'elle n'aura pas grand-chose cette année, mais Alpha de Julia Ducournau sera en salle courant 2025. Et on a vu tous les deux un film, Die My Love, où il y a une Jennifer Lawrence qui pourrait peut-être avoir un prix d'interprétation. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses.
Et oui. Ce serait dommage qu'elle ait rien, en tout cas. en tout cas, bon, l'histoire est adaptée du roman d'une écrivaine argentine, qui est Ariana Harvitz. Die My Love met en scène Grace et Jackson, bon, un jeune couple qui a quitté New York et qui s'installe dans une petite maison du Montana. Bon, elle rêve d'écrire un grand roman américain. Lui, plutôt d'enregistrer de la musique, un album de rock, hein, pourquoi pas, ou de country, hein, puisque tous les deux apprécient énormément la musique. La musique est très présente dans le film. Hein. Le générique d'ouverture, d'ailleurs, est assez explosif, hein, flamboyant et très rythmé. Mais donc, bon, ils font un enfant tous les deux et l'arrivée de ce bébé va vraiment déclencher un chamboulement qui va faire péricliter non seulement l'état psychologique de Grace, mais aussi l'état du couple. Sans que ce soit dit clairement, on comprend que la jeune mère souffre assez ostensiblement d'une dépression postpartum, ce qui est encore assez tabou dans nos sociétés et qui n'est pas en fait exprimé de manière très claire dans le film. Mais comme le livre, le film va essayer de décrire ce phénomène et ses conséquences de manière assez brutale, assez malaisante. Et ça donne l'occasion à Jennifer Lawrence de performer de manière assez hallucinante. Et en fait, en 2017, déjà, Lynn Ramsey, qui est une directrice d'acteurs et d'actrices assez hors pair, elle avait guidé Joaquin Phoenix jusqu'au prix d'interprétation masculine dans A Beautiful Day. Et puis là, on peut imaginer que la performance de Jennifer Lawrence... va lui permettre d'obtenir aussi l'équivalent au féminin. Et ce qui est particulièrement remarquable dans sa performance, c'est qu'elle fait écho à une mise en scène qui est aussi imprévisible et sombre que l'état psychologique de la protagoniste principale, Robert Pattinson, qui est le mari dans le film. Il assume volontairement un rôle qui est plutôt de second plan. Il n'est pas vraiment là. Lui, il travaille et surtout, il assiste un peu passivement à l'effondrement psychologique de l'amour de sa vie. Donc oui, on est face à un cinéma qui est un peu psychologisant et très esthétisant là-dedans. En tout cas, il adopte complètement le point de vue de l'héroïne. On traverse ses états psychologiques, son déclin en tant que jeune mère, et on est embarqué dans ses hallucinations à la frontière du réel, ce qui donne un ton assez étrange, une mise en scène qui déroute un peu. Moi, le film m'a un peu fait penser à un autre film qu'on avait chroniqué dans Cinérama, qui est Night Beach, et qui n'avait pas eu le droit à une sortie cinéma, quant à lui. C'était un film dans lequel on avait aussi une jeune mère qui prenait une pause dans sa carrière, d'artiste, pour devenir maman au foyer, avec un mari souvent absent, souvent en déplacement, et tout prenait aussi un virage un peu surréaliste, et la maman devenait carrément chien-garou. Là, on a dans Die My Love une Jennifer Lawrence qui est à moitié chat, à moitié femme, tantôt animale, tantôt très humaine, tantôt sensible, tantôt complètement détractée. Et ça donne un cocktail assez explosif, c'est le moins qu'on puisse dire, qui relate de l'expérience de la maternité comme de quelque chose de profondément transformateur, en tout cas.
Nous parlions de Die My Love en compétition au Festival de Cannes où nous sommes sur la croisette, alors un peu à l'écart évidemment. Ça va être l'occasion là maintenant, on a quand même parlé de pas mal de films déjà qui sont en compétition, de faire une petite pause avec une réalisatrice, elle est québécoise, elle s'appelle Anne Aymon. Elle était là à Cannes pour Amour Apocalypse, elle n'était pas en compétition du tout, elle était dans la sélection de la quinzaine des cinéastes, qui est une sélection plutôt riche, avec des films qui peuvent presque aller vers le grand public parfois. On a pu la rencontrer, donc je lui ai quand même posé la question, parce que c'est quand même intéressant de savoir ce que elle, ça lui fait d'être au Festival de Cannes.
C'est un mélange de beaucoup d'émotions, pour être honnête, grande joie. Parce que 43 ans, c'est ce film. Je savais pas si c'était encore possible d'arriver à Cannes, d'être sélectionné. Grande joie, grande angoisse, mais là, ça s'est apaisé parce que le film a été présenté et j'ai l'impression plutôt bien reçu, donc je suis heureuse. Mais aussi, bizarrement, petite déprime. Mais de probablement de fête et de manque de sommeil, tout ça, mais quand même, il y a un côté... c'est très ostentatoire ici. Mon film parle d'un peu de décroissance possible ou en tout cas d'un changement du monde possible. En même temps, aucun jugement là, dans le sens où j'ai moi-même pris l'avion puis acheté des robes pour venir ici, puis c'est complètement illogique. Mais je me demande, j'espère qu'il y aura un moyen de conserver des festivals de cinéma pour toujours, mais peut-être de devenir un peu plus modeste dans la... Il y a un truc ici qui est quand même... C'est beau, c'est électrisant, mais c'est beaucoup de fric puis d'énergie, puis de... Donc, je veux pas me plaindre, parce que c'était un très beau 4 jours, mais je me questionne.
Nous écoutions Anne Aymon, la réalisatrice de Amour Apocalypse, qui sera en salle, alors il faudra attendre 2026. Mais nous vous en parlerons évidemment dans Cinérama. Cinérama donc qui est présent à la 78e édition du Festival de Cannes. Nous sommes sur la croisette. On continue à vous parler des films qui sont à Cannes. On va dire quelques mots sur L'agent secret de Kléber Mendoza Filho. Un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Un film découpé en trois parties dans lequel on suit le trajet de Marcelo qui est en fait Armando. Un homme qui doit se cacher avec d'autres réfugiés car on lui cherche des noises dans le Brésil des années 70 sous la dictature. Le film navigue finalement entre thriller, espionnage et puis témoignage. Il raconte un grand pays séparé entre le nord et le sud, son régime corrompu, ses disparitions jamais élucidées, et identifie que le seul rempart, eh bien, c'est l'entraide dans le présent et puis la mémoire. L'agent secret du titre alors est assez énigmatique. Je me suis dit que simplement le personnage est obligé de changer de prénom pour vivre.
Il n'y a pas vraiment d'autre explication.
Bon, là, ça me rassure. Voilà, donc tu l'as vu aussi. Je ne sais pas ce que tu as envie d'en dire.
J'ai beaucoup aimé ce film également. Il est effectivement très long, hein, quasiment 3 heures, un petit peu moins. Donc c'est un gros morceau. Le fait qu'il soit scindé en 3 parties, c'est plutôt intéressant pour pouvoir développer le propos et s'intéresser à des moments charnières en fait, de cette histoire. Je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui est déployé dans le scénario. Il nous tient en haleine en fait tout du long sur les 3 heures, ce qui est quand même plutôt une prouesse. Et je pense que scénaristiquement il y a vraiment quelque chose de... ça mérite quelque chose.
Tu mets une petite pièce.
Voilà.
Nous avons vu aussi Phoenician Shem, hein, présent à la compétition film de Wes Anderson, mais qui va sortir la semaine prochaine. Donc, on attend d'être rentré de Cannes pour vous en parler.
Mm-hmm. Avec un petit Benicio del Toro qui est peut-être éventuellement...
Aussi, moi,
ouais,
je pense...
Mais je suis d'accord avec toi, je le mettrai pas.
Je pense que le rôle, comme celui d'ailleurs de Godard dans Nouvelle Vague, ne se prête pas au prix d'interprétation. Mais voilà,
c'est
mon avis.
Et la mise en scène ne se prête pas à laisser, je trouve, suffisamment d'espace aux acteurs pour vraiment jouer, je trouve, dans beaucoup de Wes Anderson, même si j'aime beaucoup.
Et moi aussi. Alors Sophia, on arrive quasiment au terme de cette émission. Tu voulais parler quand même d'un certain regard. Hein.
Oui, dans cette catégorie, je pense qu'il y a des films qui sont super intéressants à mentionner. Il y a notamment les deux films d'actrices qu'on connaît. Hein. Il y a le film de Scarlett Johansson qui s'y trouve et le film de Kristen Stewart que j'ai pu voir, The Chronology of Water, avec une actrice Imogen Toots qui a une amplitude dans son jeu qui, à mon sens, est exceptionnelle. C'est aussi la temporalité du film qui lui permet de connaître des évolutions et d'incarner à travers un seul personnage plusieurs versions de celui-ci. De l'adolescente en crise à la camée, dépressive, alcoolique, athlète, mère. Alors que dans la compétition, Jennifer Lawrence n'avait pas l'opportunité de déployer peut-être autant. Là, la performance est sensible, incarnée. Dans ce film, j'ai failli partir au bout des 30 premières minutes, puisqu'il est très dur. On est face à un essai visuel et sonore qui, au début, fait un peu... conceptuel, avec un rapport à l'eau et au bruit, au claquement qui crée un malaise sensoriel très puissant qui est tenu dans le temps sur bien 30 minutes et avec une voix off qui narre de manière poétique les soubresauts d'une enfance dont les souvenirs sont presque insaisissables, et tout cela fait écho évidemment à la qualité excessivement violente de l'enfance de la protagoniste du film qui a subi des abus sexuels de la part de son père. Donc un film très dur, mais que je trouve vraiment remarquable pour une première réalisation pour Kristen Stewart.
Mais on ne peut quand même pas se quitter en parlant d'un film important.
On ne peut pas se quitter sans parler du seul film qui adresse la situation gazaouite palestinienne ici à Cannes en compétition officielle. Il ne s'agit pas d'un documentaire sur la guerre actuelle, mais il résonne tout aussi fort. Il s'empare d'un scénario à l'humour noir, surprenant. L'actualité est toujours brûlante en toile de fond, mais les deux frères palestiniens revendiquent plutôt le droit à faire de la fiction. Ça donne un film en deux temps qui ne laisse que peu d'indices sur la tournure que vont prendre les événements à l'intérieur de sa narration. Et c'est très surprenant et un délicieux petit falafel de film.
Et on termine avec le premier film nigérien de Cannes.
Exactement, il s'agit de My Father's Shadow de Akinola Davis Jr. Qui est un film très beau, très sensible, qui mêle le politique à une histoire familiale entre deux fils et leur père.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
Nous étions présents, une partie d'équipe de Cinérama, Sophia et moi-même, à la 78e édition du Festival de Cannes, sur La Croisette. La semaine prochaine, nous retournerons en studio et nous aurons eh bien, tous les vainqueurs de cette compétition cannoise. À la semaine prochaine.